Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Fringale. J'espère que vous allez bien. Ils sont de retour, les conseils de classe. Et oui, on arrive maintenant à faire un tout petit peu de continuité sur Radio Fringale. Un format qui est sorti l'année précédente peut revenir l'année suivante, alors méfiez-vous. Le conseil de classe, je vous rappelle, nous nous mettons dans la peau d'une équipe pédagogique et non pas, enfin, pas n'importe quelle équipe pédagogique, pardon, l'équipe pédagogique du Fringale Cyclisme Institut, une équipe dans laquelle les professeurs, le conseiller principal de l'éducation, même le proviseur sont extrêmement talentueux et pleins de connaissances. Ce soir, nous allons traiter une grosse question, une grosse catégorie qu'on n'avait pas eue l'an passé, la catégorie des sprinteurs. Et pour m'accompagner sur ce conseil de classe, le professeur de panache, vous le connaissez, on ne le présente plus. Adri, comment ça va ?
Oui, salut à Thorn, salut à tout le monde. Et bah ça va, en pleine forme. Hein. De toute façon, le professeur de panache, ce soit d'être au top de sa forme, coûte que coûte, ou alors de faire semblant que l'activité soit là, soit présente. Alors, je vous avoue que voilà, sans spoiler, c'est pas avec la classe des sprinteurs que je me suis vraiment le plus régalé cette saison, mais quand même, on a eu quelques belles surprises et quelques belles perspectives. Donc, tout n'est pas à jeter en termes de panache pour ces garçons.
Très bien, pour nous accompagner, celui qui malheureusement est un peu en disette en ce moment, bien que, hein, on a eu une victoire dès le début d'année, c'est le professeur de français, Monsieur Titien, comment allez-vous ?
Salut tout le monde, bah, super content d'être avec vous, effectivement, c'est pas non plus la catégorie où en termes de français, on est au top on va dire, mais professeur de français, il est aussi attaché beaucoup aux courses sur route en France, et là, voilà, il y a des très grandes courses, vous le savez, le Tour de France, Paris-Roubaix, Paris-Nice, et je pense que les coureurs dont on va parler ce soir, eh ben, ils pourront bien briller sur ces épreuves, donc au moins ça me rassure de ce côté-là, et puis évidemment, il y a quand même des petits français qui peuvent briller dans cette matière, donc moi je les attends impatiemment.
Et pour compléter l'équipe pédagogique de la soirée, celui dont finalement, hein, c'est presque la classe préférée, c'est le professeur d'efficacité, Monsieur Loïc, comment allez-vous ?
Ça va très bien, et vous ? Un peu fatigué, mais l'efficacité, c'est de pouvoir performer, même quand il y a de la fatigue.
Parfait. Alors comme vous pouvez le constater, je sais aux grandes dames certainement de nombreux et nombreux spectateurs et spectatrices. Malheureusement sur cette saison 2, moi-même conseiller principal d'éducation La Torne, j'ai perdu mon accent. Hein. L'accent ne sera pas de mise. Je sais, je sais à quel point. Voilà.
Oh là là, je sais.
Voilà. Quel dommage.
Après le harcèlement subi par mes collaborateurs, je me suis dû de rentrer dans le rang et moi-même de me mettre à parler comme l'ensemble des personnes présentes sur ce conseil de classe. Passons. Messieurs, je sens que vous avez une journée difficile, que ça a été un peu compliqué aujourd'hui en classe. C'est pourquoi je vous propose qu'on commence ce conseil de classe par un petit jeu. Voilà, histoire de se détendre les maxillaires. Qu'en pensez-vous ?
Eh ben allons-y. La pédagogie par le jeu, c'est ça votre
exactement.
Théorie, monsieur le TPE ? Eh ben allons-y.
Ah, je ne peux rien vous cacher. En effet, j'étais en formation il y a quelques semaines et je vous ai préparé un petit jeu qui s'appelle Cinévélo. Je vous explique rapidement. Je vais vous donner une phrase tirée d'un film. Normalement, dans cette phrase, on entend le nom d'un des personnages du film. Là, il faudra remplacer le nom du personnage du film par un coureur ou quelqu'un qui gravite autour du monde du vélo. Ok ? Moi, j'ai préparé des réponses parce que j'ai trouvé que ça allait bien. Je vous donnerai un point si vous trouvez ma réponse, bien évidemment, mais je pourrais éventuellement donner un point si vous ne donnez pas ma réponse, mais que je trouve votre réponse rigolote ou bien placée. Voilà. Pour avoir un point, il faut trouver le coureur ou un coureur, et bien évidemment un deuxième point, puisque Radio Fringale, c'est aussi de la culture, trouver le nom du film. Est-ce que vous êtes prêts ?
Ça fait très peur.
Est-ce que vous êtes prêts ?
On va y aller, hein.
allez, c'est parti. Allez,
première réplique. Cours ! Cours.
Forrest Gump, le film.
Ok, et quel coureur?
Froome.
Oui. Quel génie.
Ah, bien joué.
Référence au Mont Ventoux, tout à fait. Chris Froome à pied dans la montée. Cours, Chris Froome, cours. Ben, il me semble que c'est un doublé, hein, pour commencer ce petit jeu. Un doublé du professeur de panache. Quel panache pour commencer. On enchaîne. Non. Tu es tombé dans la marmite quand tu étais petit.
Astérix Obélix.
C'est un Astérix Obélix, j'accepte le point. Et maintenant, et si vous trouvez
non,
la
Tadej.
Non, c'est pas Tadej. Non. Si vous trouvez la vanne qui va avec le nom en plus, enfin la fin, je vous donne 2 points.
Avec le nom.
C'est un vrai coureur qui est tombé dedans quand il était petit.
Avec Obélix du coup.
Alors, ça va pas avec Obélix, mais la fin de son nom peut être gauloisisée pour que ce soit rigolo.
C'est quoi?
C'est par rapport à la potion magique ou
c'est par rapport à la potion magique, tout à fait. C'est un coureur qui serait tombé dans la potion magique étant petit. Coureur qui ne court plus, petit indice.
Non, qui court plus.
Qui était très puissant dans l'école. On se disait, aïe, aïe, aïe.
Armstrong.
Non.
Lance Armstrong.
Non. Mais non, ça peut pas être gauloisisé, Armstrong. Alors. Mais il courait à son époque.
C'est
les gars.
Un petit Vinokourov.
Non, il venait de l'Est également, mais pas autant de l'Est que ça.
Non, Ulrix. Ulrix.
Ah.
Oh non.
Eh oui, bien sûr. Yann Ulrix.
Voilà.
Je vous ai dit que ça allait être fun. Adri, ça fait 4 points et tu es la même gauloisisée, donc c'est bien, c'est 5 points, 5-0-0. Messieurs, le professeur de panache est encore en train de vous couper l'herbe sous le pied.
On est habitué.
Attention, que ce jour reste à jamais gravé dans vos mémoires comme celui où vous avez failli capturer le capitaine
Jack Sparrow.
En effet, donc le film c'est Pirates des Caraïbes, et maintenant vous devez penser à qui était le capitaine pirate le plus connu du peloton.
Marco Pantani.
Ah, Marco Pantani.
Oui, tout à fait, exactement, exactement. Il aurait dit cette phrase à l'UCI en 2001 avant d'être chopé pour la fin. ça fait un point pour Titien et du coup 6 points pour Adri. Est-ce que vous êtes prêts?
Ouais, vas-y. Yes.
Très bien.
Toujours.
Vous connaissez le docteur c'est un droïde.
Astérix, Mission Cléopâtre.
Tout à fait.
Quoi?
Et vous pouvez encore une fois le gauloisiser, ce docteur.
Docteur Mabuse.
Oui,
c'est
un
putain, Adri, quel talent, quel talent.
Ah bah oui, bah quand on parle du docteur Ferrari, il y a du monde là.
Et maintenant, pour terminer, j'en ai encore deux. Je vous fais celui pour lequel ce jeu a été créé. Et je suis si fier de l'affaire et je vais rire quand vous allez donner son nom. Quand fâché, lui, toujours faire ainsi.
Oh putain, c'est dans quoi ça?
C'est un dessin animé inspiré d'une bande dessinée. Et normalement, est un animal. Je reprends que fâché, lui, toujours faire ainsi. Alors.
Le silence.
Ouais, j'entends. Ça réfléchit de tous les côtés.
Une BD pour enfants, là?
C'est une BD ou pour enfants, pour adultes, c'est une vieille BD, mais en tout cas, c'est une BD iconique.
Tintin?
Oui, c'est Tintin. Tout à fait, c'est bien joué, c'est Tintin. Alors, c'est Tintin où?
Ah, et Tintin au Congo?
Non.
Faut sortir tous les Tintins en
c'est
liste.
Tintin, là, c'est Tintin et le temple
du soleil.
Du soleil.
Voilà. Alors que se passe-t-il dans Tintin et le temple du soleil? Il y a un animal qui, quand il est fâché, il fait toujours quelque chose. Et il le fait
le lama.
Tout à fait.
Ah, Vanderpool.
Oui, exactement. Le lama crache quand il est fâché, tout comme Vanderpool. Allez, les groupies, on rigole un bon coup.
Quand tu nous attaques directement.
Aïe, ça fait un point pour Loïc.
Elle était très bonne, celle-là.
Je vous ai dit, j'ai pensé à ça pour créer le jeu, donc voilà, je pense qu'elle est meilleure que toutes les autres. Et enfin,
t'as pas dit qu'il tapait sur les enfants aussi?
Non, j'ai pas trouvé de film encore là-dessus. Et pour terminer, allez, celle-là, elle est un peu poussive, mais je vous la fais quand même. Donc, le nom du coureur. Je suis ton père.
Star Wars.
C'est un Star Wars, tout à fait. Je prends un point pour Loïc. Et je peux vous dire que c'est un coureur que vous avez déjà cité, mais qui n'était pas dans le bon film, malheureusement. Un coureur qui pourrait être un peu notre Dark Vador et qui aurait un enfant qui court en ce moment.
Ouais, bah oui, Armstrong, t'as raison, avec son fils.
Non, c'est pas Armstrong.
Ah, même pas, parce que son
Armstrong,
fils
c'était
Luke,
plus l'empereur. Que... Ah, magnifique. Alors.
Ça marche pas.
Venu de l'Est.
Gagné avec.
Venu de l'Est.
Ah, Vino.
Et Vino, oui, tout à fait. Ouais. Et donc, c'est Nicolas. Je suis ton père.
Ok. Ouais, un peu, ouais.
Voilà, oui, la dernière était un peu poussée, je dois l'avouer, mais bon, voilà, hein, on fait ce qu'on peut. Je l'avais gardé en question subsidiaire, vu que je l'avais sous la main. Voilà. Vanderpool était mieux, Ferrarix était bien aussi, Yannulrix, etc.
Ferrarix était parfaite.
Très bien, messieurs, mais je pense que nous avons bien rigolé maintenant, nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Cher professeur, je sens que l'adrénaline est rentrée en vous, vous allez maintenant pouvoir nous parler de nos coureurs. Aujourd'hui, on s'intéresse à la classe des sprinteurs, 4 élèves desquels on a prévu de parler, Arnaud Dely, Olaf Coy, Jasper Philipsen et Arnaud Démare. Professeur de panache, vous avez décidé de nous présenter le petit Arnaud, Arnaud Dely.
Oui, bah, le petit Arnaud Dely, parce que bon, il fallait quand même que je présente un sprinter qui ait quelques affinités avec ma matière, si vous voulez.
Bien sûr, qui ne sèche pas les cours. Quoi.
Oh là là là, c'est ça, le fait de pousser uniquement dans les 200 derniers mètres, moi, vous comprenez bien que ça ne m'emballe pas forcément. Donc voilà, et ben, Arnaud Dely, donc sa saison 2023, alors il faut rappeler qu'il a 20 ans à l'aube de cette saison, hein, il est du 16 mars, donc il a fêté ses 21 ans le 16 mars 2023, et avant ses 21 ans, bah, il avait quand même remporté déjà 3 succès. Direct sur la première course, bam, il claque en Espagne. Et ensuite, il est toujours bien placé. Il fait une étoile de Bessèges assez remarquable. Aussi, une présence remarquée sur les semi-classiques belges. Hein. On va noter la deuxième place au Het Nieuwsblad, la septième à Kuurne-Bruxelles-Kuurne, sixième d'à travers les Flandres, septième de la Flèche Brabançonne. Vraiment des belles performances. Alors, bon, sur les monuments, on voit qu'il n'a pas encore la longueur et puis la carrure d'encaisser vraiment ces heures et ces heures de sel et passer les 200 km, ça devient un petit peu plus compliqué. Mais voilà, il faut pas oublier qu'il a seulement 20 ans, 21 ans et ses performances sont pour un remarquable, d'autant plus qu'il a quand même eu une grosse pression sur les épaules vu ses résultats l'année précédente. On l'attendait à exploser au plus haut niveau. Il a brillé en World Tour. Il a remporté des courses au World Tour. Et notamment dans la deuxième partie de la saison où il a brillé et il a remporté le Grand Prix de Québec. Donc une classique World Tour. Voilà, remarquable de puissance comme toujours. Et il sait aussi... voilà, on va dire les arrivées montantes où il faut de la force, il faut de la puissance. Hein, il n'est pas surnommé le taureau pour rien. Là, il excelle et puis il y va quoi. Quand il faut appuyer sur les pédales, il appuie et ça fait très très mal. Il faut aussi noter qu'il a gagné au mois de janvier, il a gagné aussi au mois d'octobre. Il a vraiment gagné très régulièrement. Je crois qu'il y a juste le mois de juin où il a quasiment pas couru, où il n'a pas gagné. Ah puis si, oui. Avril-mars, ça a été un petit peu plus compliqué, mais c'était la période des classiques. Donc là, il était sur une autre concurrence également. Alors, le petit défaut pour Arnaud, c'est que bah, pour l'instant, il n'y a pas encore, même si le Grand Prix de Québec, c'est une superbe victoire, il n'y a pas encore de grosses perfs sur des courses retentissantes du calendrier, non plus d'adversaires battus, des plus prestigieux du peloton. Mais voilà, moi je mets en avant sa progression qui n'est pas trop rapide et qui devrait lui permettre, je pense, très rapidement d'atteindre un niveau assez stratosphérique. Donc moi, si vous voulez, au niveau de ma mention, je vais me permettre de lui adresser les félicitations pour l'encourager à poursuivre dans cette voie.
Très bien. Eh bien écoutez, Arnaud Dely, moi j'étais au début, quand on a préparé ce conseil de classe, j'étais extrêmement parti sur les encouragements. C'est-à-dire que l'année 2022, il est arrivé et tout le monde était là, waouh, hype de ouf. Qui c'est ce gars? L'année prochaine, il va tout péter et tout. Alors oui, très jeune bien évidemment, mais on sait qu'aujourd'hui dans le cyclisme moderne, très jeune, ça veut pas dire grand-chose. Et finalement, sur sa première partie d'année, même s'il démarre bien, j'ai eu l'impression qu'il y avait un peu un trou au milieu. Où en effet, il est pas mauvais sur les semi-classiques, mais entre mars et avril, c'est pas foufou, je trouve. Voilà, il en gagne un peu par-ci par-là, mais et en fait, il finit super bien la saison, et notamment, comme tu l'as très bien dit, Adri, avec cette victoire au Grand Prix de Québec, où là, pour moi, c'est sa victoire référence de l'année, parce que c'est vraiment celle sur laquelle Alors oui, en début d'année à BCS, il bat Mats Pedersen, mais voilà, c'est le début d'année. Enfin, c'est aussi des gars qui préparent des trucs qui viennent plus tard. Là, c'est une course de fin d'année où on a tous les grands noms qui savent s'imposer sur ce type de course. On a du Michael Matthews, on a du Moritz, on a du Laporte, on a bon Hirschi, c'est moins ça, et Alaphilippe aussi, mais ils sont quand même là. Enfin voilà, il bat vraiment des grands noms sur une course hyper intéressante. Et du coup, grâce à cette dernière course, bah, je trouve que ça remet un coup de peps quand même à son année, et moi aussi finalement ça me donne envie de lui donner les félicitations, parce que je me dis bon, ok, il a eu un trou dans sa saison, ok, peut-être qu'on attendait presque peut-être un peu trop de lui, et puis vu que comme tu disais il a claqué dès le début d'année, bah forcément tu te dis qu'il va tout éclater dans l'année. Mine de rien, il finit super bien l'année, même si bon son tour de Chine n'est pas ouf, mais c'est pas grave, on lui en veut pas. Félicitations pour moi pour Arnaud Delis cette année, et par contre il faudra qu'il fasse mieux l'année prochaine pour conserver les félicitations. S'il refait une deuxième saison comme ça, je sais même pas si je lui donnerai les encouragements. Voilà. Là, c'est un encouragement plus, donc félicitations. Et mais maintenant, j'en attends encore plus cette année pour la confirmation de ce coureur qui risque d'être un très très grand coureur.
Écoutez, pour moi, ça va être très simple. C'est les félicitations. En fait, tout simplement, le mec a 21 ans. C'est quasiment déjà le meilleur sprinter puncher du monde, quoi. Enfin, ce qu'il a montré cette année sur une arrivée en boss, le mec est injouable. Il y a qu'à voir. Enfin, il gagne sur une jambe une course là en fin d'année, alors qu'il y avait quand même de la concurrence. Il y avait des Laporte, des Caden Groves, et le mec, pour autant, il peut faire les 40-50 derniers mètres sur une jambe à pousser avec l'autre son vélo, tellement il est au-dessus de la concurrence. Il n'y a qu'à voir son final du Grand Prix de Québec, où à 200 mètres de l'arrivée, il est encore en 20e position du peloton, très très loin de la première place, et il fait un sprint de mammouth pour aller gagner. Sur les championnats d'Europe, il se sacrifie et il roule un kilomètre entier pour Wout van Aert, et finalement, il finit quasi dans la roue des 2-3 premiers. Donc non, et Arnaud Delis, il est hyper fort. En fait, moi, sa deuxième saison pro, là, elle me fait beaucoup penser à l'époque à celle de Peter Sagan, qui avait explosé en 2010, et on disait qu'il allait tout casser. Il avait fait une deuxième saison, il avait gagné beaucoup comme Arnaud Delis, mais il avait pas brillé sur les monuments. J'ai l'impression que c'est peut-être ça qui peut ternir un peu l'image d'Arnaud Delis. C'est que voilà, on l'a vu lâcher rapidement sur Milan-San Remo, sur Paris-Roubaix quand même. Si je dis pas de bêtises, il fait un top 15 sur son premier Paris-Roubaix, alors qu'en plus, il a pas mal de problèmes pendant la course. Donc, non, moi, je trouve que justement, c'est l'année de la consistance. Forcément, par rapport à sa première année, il a fait beaucoup plus de grosses courses, donc c'est dur de tout gagner, etc. Mais à 21 ans, on a vu qu'effectivement il manquait d'endurance, voilà, de résistance peut-être sur des grosses courses, mais ça va se travailler avec l'âge. Et en tout cas, voilà, sur son terrain là où il excelle, c'est-à-dire les sprints en boss, il est vraiment pour moi déjà quasi injouable. Et puis, on l'a vu sur pas mal d'autres courses également à la bagarre. C'est un mec qui a une grosse caisse. Donc, non, à 21 ans, c'est super ce qu'il fait. Enfin, voilà, il a joué quasi avec des tout meilleurs coureurs quasi toute l'année. Donc, voilà, pour moi, félicitations à Arnaud Delis. À son âge, c'est fou. Et je pense que, ça va être encore bien mieux cette année maintenant qu'il a réalisé une année assez complète comme celle-là. Donc, bravo Arnaud Delis. Et les félicitations de ma part.
Juste petite précision, Titien, il fait 50e sur Paris-Roubaix.
D'accord, et ben excusez-moi.
Par contre, il a fait un très bon à travers la Flandre où il fait 6e.
Ok, je pensais qu'il avait fait un meilleur Roubaix. Mais
non, pas de souci, okay. Mais j'ai les notes sous les yeux, c'est pour ça que je me permets de.
Tu fais bien de me reprendre.
Non, pas de souci. Professeur d'efficacité, qu'avez vous pensé d'Arnaud Delis?
Alors, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été déjà dites. Il est extrêmement jeune, enfin, il a 20 ans. Il est en train de. C'est le futur de la loto. Je pense qu'on va, dans le futur, on va l'attendre sur les classiques. Mais là, pour c'est un gamin quand même. Il a 20 ans, il fait une saison exceptionnelle. Pour quelqu'un qui a 20 ans, il finit sur une chaussure, comme Titien l'a dit. Il est extrêmement explosif. Je pense que pour moi, oui, il a les félicitations. Mais il va devoir progresser dans le futur. Et je le vois que progresser. Donc, non, je pense que ça a été une très, 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 très bonne année pour le jeune qu'on peut dire en maternelle, quoi.
Tout à fait. Avant qu'on enchaîne, pour clôturer sur Arnaud Delis, maintenant, messieurs, et notamment professeur de panache, qu'est-ce qu'on attend pour lui sur cette année 2024, soit pour confirmer, soit pour aller chercher peut-être encore plus?
Oui, mais c'est un petit peu dans la continuité de ce qui a été dit par mes collègues. Il faut qu'il progresse, il faut qu'il aille chercher d'autres succès. On sait qu'il peut enchaîner les victoires, 9 succès en 2022, 10 succès en 2023. Ça, on sait qu'il sait faire. Et je pense que ce qu'il va falloir apprendre et ce sur quoi il va devoir se focaliser dès 2024, c'est viser des gros objectifs et être performant sur cela et gagner des grosses courses. Parce que maintenant, vu ses résultats les deux dernières saisons, c'est là où on l'attend. Et effectivement, c'est toi-même qui l'avais dit, s'il refait le même genre de saison en 2024, c'est pas là où on l'attend. C'est pas là où on l'attend qu'il aille gagner trois étapes du Tour de Belgique ou des courses 1 point pro ou 1.1. On l'attend plus là-dessus, Arnaud Delis. Donc, il va falloir qu'au niveau World Tour, il franchisse un palier et également qu'il arrive sur les courses de plus de 220, 230 km à être performant, parce que là, on sent qu'il y a un petit manque. Donc, voilà, si je devais résumer, c'est briller là où il ne l'a pas fait encore.
Écoute, je suis exactement comme toi, hein. Clairement. Je suis sur la même lignée. Rien de plus à dire, mais par contre, en effet, une année comme celle-là, l'année prochaine, ne sera pas suffisante. Voilà, pas forcément d'aller gagner tout de suite des monuments, mais ne serait-ce que des classiques où il était déjà pas loin cette année, hein. Il prend une belle deuxième place sur l'Umloop, il est septième sur Kurn, il est sixième à travers la Flandre. Enfin voilà, clairement, il est pas loin. S'il en gagne ne serait-ce qu'une, voire deux, plus peut-être se confronter à un grand tour, aller voir ce qu'il vaut un peu, peut-être aller gagner une étape. Bien sûr que ce sera
annoncé
suffisant.
Sur le Tour de France, apparemment.
Ok.
Donc ça va être très intéressant, mais oui, il va se... On va le voir dans les sprints massifs sur les grands tours. À voir, c'est pas forcément là où il excelle le plus quand il y a une grosse densité, parce qu'il y a quand même le placement. On a pu apercevoir quelques difficultés de placement pour Arnaud Delis, mais ça, c'est pareil, c'est un truc à travailler. Et je pense que lui, il a été habitué depuis toujours à gagner uniquement en appuyant 4 fois plus fort sur les pédales que les autres. Donc va falloir également aiguiser le sens tactique.
Voilà, donc dans la même lignée.
Ouais, bah moi je vais vous suivre aussi. Pour moi, une saison réussie, voilà, maintenant qu'il a montré ce qu'il savait faire, il faut jouer avec les tout meilleurs sur les plus grandes courses, et ça veut dire gagner des étapes sur les courses d'une semaine. Je sais pas s'il va sur Paris-Nice, sur des courses comme ça, mais je serais déçu s'il en claque pas une. Ça veut dire pour moi aller claquer sa première victoire sur le Tour de France, vu les quelques étapes de sprint, un chouïa vallonné qu'il y a, l'étape des chemins blancs, etc. Il y a quand même pas mal d'étapes qui lui conviennent à Arnaud Delis, et moi je le crois tout à fait capable d'aller chercher une première étape. Et puis moi j'aimerais le voir, je dis pas gagner parce que la concurrence est rude, mais c'est l'enchaînement des trois monuments là, Milan-San Remo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, bah j'aimerais bien le voir, voilà, aller à la bagarre pour la gagne sur un de ces trois monuments. Milan-San Remo, ça peut quand même parfaitement lui convenir. Donc voilà, une saison réussie pour moi, ouais, ça passerait quand même par à minima, un top 5, voire un podium sur un monument, pour montrer que sur des courses où il y a le gratin du peloton mondial, et notamment des sprinters et des punchers, il est là. Donc voilà, il doit maintenant montrer toute l'étendue de son talent face aux meilleurs mondiaux.
Loïc,
Moi j'ai hâte de le voir sprinter parmi les grands, aller voir sur un grand tour, voir ce qu'il peut faire contre un Philipsen. Et je pense qu'il va... Bon, la Lotto, c'est quand même une bonne équipe, mais je sais pas comment... Est-ce qu'il va bien être entouré pour gagner des sprints massifs ? Après, c'est peut-être pas forcément là-dessus qu'il va concentrer sa saison, mais comme on l'a tous dit, enfin, on a tous très hâte de le voir sur les grands tours et sur les classiques. Après, faut pas lui demander, je pense, de gagner une classique directement, parce que c'est... Bah, il est jeune, enfin... Je pense que la principale chose qu'on peut dire avec lui, c'est qu'il est tellement jeune que faut pas lui en demander grand-chose. Et après là, je regardais, son contrat a l'air d'être blindé jusqu'en 2026, donc il n'a pas forcément une très grosse pression aussi au niveau des résultats. Et je pense que la Lotto va tout faire pour le garder. Donc je pense que c'est bien qu'il reste aussi chez la Lotto, qu'il construise une équipe autour de lui. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire.
On peut dire que rester chez Lotto, ce sera peut-être sa destinée.
Oh, professeur de panache, enfin. Quel panache, toujours celui-là. Très bien, écoutez, il me semble qu'à l'unanimité, nous sommes sur les félicitations pour Monsieur Arnaud Delis. Nous pouvons enchaîner. Eh bien, écoutez, je vais vous présenter un autre coureur, moi. Et bah, comme vous vous en doutez, c'est un sprinter, hein, bien évidemment. C'est Olaf Coy. Alors, Olaf Coy, je trouve que, mine de rien, sa saison 2023, elle n'est pas si incroyable que ça. À la base, j'étais parti... C'est l'inverse d'Arnaud Delis pour moi. J'étais parti pour lui mettre les félicitations en me disant « Ah, quand même, il avait une très belle saison. Il est tout jeune, lui aussi. Hein, il n'a que 22 ans. Et puis finalement, je me rends compte que sa saison 2022, même si en 2023 il a une très belle victoire de référence, notamment sur Paris-Nice, où on sent qu'il voilà, il va gagner des courses un peu plus difficiles, pour le reste, j'ai l'impression que bah, il n'a pas vraiment été meilleur dans l'ensemble de ses victoires et sur les courses sur lesquelles il a couru que ce qu'il avait fait l'année 2022. Et notamment à la fin de l'année 2022, alors c'est très intéressant parce qu'en plus je crois qu'on parlera de Philipsen plus tard, mais sur la fin de l'année 2022, il bat deux fois Philipsen, une fois en octobre, là, sur, vous m'en voulez pas, mais je ne vous prononcerai pas la course, elle arrive à Münster, voilà, enfin à Münster, si ça vous intéresse, en Allemagne, mais elle avait lieu le 3 octobre, et puis il le bat aussi sur le Tour du Danemark, lors de l'étape 3, qui remporte, et là on se dit, bon bah, Olaf Coy, sprint massif, il pète deux fois Philipsen l'année prochaine sur tous les sprints massifs qu'il fait, même quand il y aura du monde, il y a quand même des chances qu'il soit toujours là. Et pourtant, sur cette année, eh ben, on se rend compte que quand il est confronté vraiment au gratin du sprint, eh ben, c'est pas toujours ça. Alors, il en gagne deux belles sur le tour de Chine en fin d'année, où il bat Milan notamment. Il fait un tour de Grande-Bretagne exceptionnel où il gagne les quatre premières, mais ça me fait un peu penser, on en reparlera encore une fois avec Philipsen, bah, quant à Wout van Aert en poisson pilote, bon, ça ouvre des opportunités, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, ça reste des courses où finalement, c'est pas non plus les courses les plus exceptionnelles de l'année. Et Olaf Coy, je l'attendais quand même un tout petit peu plus capable d'aller gagner, bah voilà, notamment début d'année sur le AE Tour, quand il est confronté au gros sprinter. Sur Paris-Nice, comme dit, il en prend une. Puis après, derrière, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il s'impose sur des courses où il y a de la concurrence, mais c'est pas le top du top niveau. Donc pour moi, cette année, ce sera encouragement, c'est-à-dire la saison est bonne, je veux pas ne rien mettre. Mais l'année prochaine, en plus t'es sur le Giro PPR, t'auras Wout van Aert avec toi, ramène le cyclamen ou va claquer deux ou trois étapes, enfin voilà, mais j'attends encore un palier pour donner les félicitations à Olaf Coy.
Ah, je te trouve quand même dur, moi je trouve que sa saison elle est excellente et pour moi...
Mais je suis dur, Titien, je suis dur.
Ouais, non, mais... mais écoute, moi je vais être un peu plus, voilà, tu sais, l'école en France, on est un peu sympa, voilà. Non, pour moi, Olaf Coy, c'est une très très bonne saison. Enfin, encore une fois, on banalise à chaque fois le fait que ces jeunes de 20 ans, 21 ans, etc., enfin, on attend tout de suite qu'ils gagnent tout, mais à l'âge qu'il a, et surtout, enfin, Olaf Coy, il n'est pas autant des Delis, des Philipsen sont dans des équipes totalement dédiées au sprint, autant Arnaud Delis, quand on enlève Wout van Aert comme poisson pilote, bah, il a les frères Van Dijk, voilà, mais il a quand même pas un train incroyable pour l'emmener au sprint. Et donc, pour l'avoir beaucoup suivi, souvent, il était mal placé, il devait se débrouiller tout seul. Et je trouve quand même que dès qu'il a été mis par son équipier, assez rarement quand même, je trouve, en position idéale, bah, il y a qu'à voir sur Paris-Nice, où il bat quand même des Tim Merlier, des Delis, le gratin en fin de saison, il est sur le Tour de Grande-Bretagne. Alors certes, il est emmené par Wout van Aert, mais ensuite... il gagne tellement facilement, il a une pointe de vitesse quand même assez phénoménale. Il paye aussi son calendrier parce que forcément, bah voilà, les objectifs de la Jumbo, c'est avant tout les courses par étapes, les grands tours, et on s'embarrasse moyennement d'un Olaf Coy. Donc voilà, il est plutôt été mis sur des courses secondaires et à chaque fois, il a scoré et largement, il aime remporter des classements généraux, tout ça. Donc non, Olaf Coy, pour moi, c'est une super saison. Il fait même un top 3 au championnat d'Europe en fin de saison. Il prouve quand même que sur des petites bosses, il sait les passer. Je me souviens de la classique Bruchpan là, en début d'année que remporte Philipsen avec plein de bordures. Ils finissent sur une course toute plate, ils finissent à 4. Philipsen, il est très, très, très fort. Et pourtant, Olaf Coy, il est battu que d'une demi-roue. Donc non, pour moi, à la fois, il subit plusieurs choses. Il subit son calendrier, qui n'est pas le calendrier principal. Il subit forcément bah, du coup, le fait qu'il est chez Jumbo et que ce n'est pas une équipe tournée vers les sprints. Et puis, il subit également la domination de Philipsen, parce que si tu enlèves Philipsen, je pense que ça lui rapporte encore 3-4 victoires de plus à Olaf Coy. Donc non, pour moi, c'est les félicitations à son âge, ce qu'il fait, c'est super. Et cette année, enfin, il va pouvoir être mis sur un grand tour avec la Jumbo. Donc voilà, il y a une progression logique. Mais en tout cas, en termes de sprint pur et de pointe de vitesse, pour moi, il m'impressionne vraiment. Et il est déjà parmi les 3-4 meilleurs sprinteurs mondiaux. Donc à son âge, à 22 ans tout juste à l'automne, là, c'est... pour moi, c'est un top sprinter, Olaf Coy.
Très bien. Loïc, es-tu parmi nous ?
Oui. Le professeur d'efficacité a quelques problèmes techniques. Mais
la connexion n'est pas efficace, mais tu es de retour au meilleur des moments.
Oui, mais donc je n'ai pas pu très bien entendre ce que mon collègue Titien a pu dire.
J'ai mis les félicitations.
Il a mis beaucoup de bien.
Ok. Voilà. Ok. Bah, c'est quand même compliqué avec lui, les félicitations carrément. Je pense qu'il a quand même, il fait un tour d'Angleterre exceptionnel avec un poisson pilote exceptionnel. Bon, après, le tour d'Angleterre, j'ai cru comprendre qu'ils avaient plus trop les financements pour l'année prochaine et que la concurrence n'était pas exceptionnelle. C'était un truc qui était un peu joué à l'avance avec un parcours très, très ennuyeux. Bon, là, je suis en train de tirer sur les Anglais, mais bon, les roast beef, on va pas...
Qui ne l'a jamais fait.
Qui ne l'a jamais fait, exactement. Donc, il fait premier sur les quatre premières étapes. Il est très fort. Bon, il ne gagne pas le général. Mais il est aussi extrêmement jeune. Il a 22 ans. Bon, et il n'a pas une équipe... Enfin, je crois que Titien le disait, c'est... il n'a pas une équipe qui est dédiée aux sprinters pour lui. Il est dans une énorme armada. Pour moi, ce sera plutôt les encouragements, en fait. Parce qu'il n'a pas fait une saison incroyable. Il n'a pas gagné sur un grand tour parce qu'il n'y était pas. Et l'année prochaine, j'ai envie de le voir briller sur le Tour d'Italie avec Wout aussi. Mais les félicitations, ça fait un peu beaucoup pour moi, je trouve. Mais les encouragements, je pense que c'est quand même un truc, c'est quand même une saison positive pour lui. Et hâte de le voir progresser vers la maturité. Et j'espère aussi qu'il va pouvoir être mieux entouré chez la Jumbo. Après, est-ce qu'on veut vraiment que la Jumbo se renforce encore plus, à voir. Voilà.
Ouais, bah, moi, je vous trouve assez dur dans l'ensemble avec Olaf Koij, parce que je pense que si à l'orée de la saison 2023, on avait annoncé par avance toutes les victoires qu'il allait pu avoir, notamment celle acquise sur Paris-Nice, d'innombrables succès. Alors, il faut que je me replonge. Je crois qu'il y a 13 succès pour lui sur cette année 2023. Je trouve c'est un petit peu sévère, surtout que, comme Titien l'a très justement dit, il choisit, c'est pas trop les courses sur lesquelles il allait aller. Donc c'était un petit peu, bah là tu vas là parce que bah il faut faire le nombre et puis de toute façon t'es pas dans les prioritaires dans la Jumbo. Et bah il a été très 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 régulier. Il a gagné quasiment sur chaque course à étapes à laquelle il a participé, à une ou deux exceptions près. Et franchement, il a répondu hyper présent. Moi, c'est clairement, pour moi, c'est clairement félicitations à Olaf Koij, qui a, je pense, explosé cette année et qui a, du coup, mérité, en faisant ça, une sélection pour son premier grand tour, qui sera le Giro. Donc, on va enchaîner après sur les perspectives 2024. Mais clairement, il va falloir confirmer tout ça en allant gagner au moins une étape. C'est le strict minimum sur le Giro. Mais non, clairement, pour moi, sa saison 2023, elle est très, très réussie. Je le rappelle, tributaire du calendrier que lui a imposé son équipe. On ne peut pas lui en vouloir de ne pas avoir gagné de grandes courses, bah, tout simplement parce qu'on ne l'a pas aligné sur ces grandes courses. Au niveau World Tour, hein, il y a l'UEAE Tour, qui n'est pas non plus... Bah, encore que maintenant, c'est assez relevé. Paris-Nice, il gagne deux étapes.
Un chrono par équipe, quand même.
Ouais, donc une étape, j'avoue. Il fait deuxième à Fontainebleau. Et voilà. Mais en tout cas, il arrive à lever les bras. Et après, deuxième de Bruges de Panne, huitième de Ganvevelgem. Pareil, on l'attendait pas forcément. Et puis au championnat d'Europe aussi, hein, où il est très très en vue. Donc, ouais, il fait podium, c'est ça, il fait troisième. Mmh. Donc, non, pour moi, la saison, voilà, félicitations pour cette belle saison.
Très bien. Eh bien, malheureusement, c'est cruel pour Olaf Koij, mais puisque je suis son professeur référent pour cette année, c'est donc les encouragements qui lui seront attribués, puisque nous sommes deux à lui donner les encouragements et deux les félicitations. Alors, qu'attendre l'année prochaine d'Olaf Koij pour enfin aller chercher les félicitations? Bah, je pense qu'on l'a tous un peu dit. C'est des victoires encore plus conséquente, parce que juste pour revenir, en effet, sur cette année, il y a 13 victoires, enfin 12 et demi, c'est une très belle saison, mais moi je trouve que par rapport à celle de 2022, je vois pas un gros step qui a été passé. En 2022, il gagne 9 fois sur des courses à peu près pareilles, on l'a vu écraser des courses comme il avait pu le faire l'année précédente, donc là, vraiment, pour moi, le nombre de victoires, finalement, si ça reste au même niveau, comment dire, c'est pas forcément ce qui m'intéressera le plus, donc j'attends de notre ami Olaf pour cette année, d'aller chercher des grosses victoires, des victoires clés, des étapes sur les grands tours, etc., etc., et qu'on se dise à la fin de l'année, ouais, ok, c'est un sprinter de classe mondiale capable de battre les meilleurs dans les meilleures courses, et maintenant, faudra compter sur lui l'année prochaine, enfin dans 2 ans, quand il se battra sur le Tour de France contre Philipsen, et ben sur chaque sprint, ça se jouera à une demi-roue ou autre, parce que les deux auront un niveau stratosphérique. Voilà mes attentes pour Olaf Koy, et pour aller chercher les félicitations en 2024.
Ouais, bah, je te suis, il va falloir continuer à gagner sur les grandes courses, qu'il a déjà commencé à faire l'année dernière, mais voilà, il va vraiment falloir le faire, moi je vous le dis les gars, hein, Olaf Koy très très rapide, emmené par Wout Van Aert sur le Giro, mais ça va scorer de fou si vous avez un mec à prendre dans votre, un sprinter que vous voulez prendre dans votre équipe Cycling Fantasy à ce moment-là, mais prenez Olaf Koy, emmené par Van Aert, il y a qu'à voir autour de Grande-Bretagne, même si c'était pas la même concurrence, mais il y avait aucun souci, quoi. Enfin, donc non, moi je le vois, je pense qu'il va en taper plus d'une sur le Giro. J'attends également de le voir sur beaucoup d'étapes d'épreuves World Tour d'une semaine. J'attends de le voir sur les courses pavées. Je pense qu'un Paris-Roubaix, Olaf Koy, c'est tout à fait dans ses cordes. Si Philipsen l'a fait cette année, voilà, Olaf Koy, pour moi, il a toutes ses chances aussi sur une course comme ça. Et en plus, il pourra toujours jouer du jeu d'équipe dans l'équipe Visma Liesebike avec Laporte et Van Aert. Je l'attends également sur un Milan-San Remo. On sait que Van Aert, normalement, ne l'a pas prévu à son programme cette année. Donc, peut-être un Olaf Koy emmené par Christophe Laporte, enfin voilà, ou qui pourrait profiter justement du jeu d'équipe avec Laporte en tête pour pas en mettre une et faire un sprint final. Donc non, moi pour moi il peut briller dans plein de courses, dans les courses pavées, dans les sprints massifs, dans les courses un chouïa vallonné. Donc moi voilà, je l'attends pour avoir une razzia de victoires et beaucoup de victoires en World Tour cette année et montrer que il est vraiment devenu avec Philipsen le meilleur sprinter du peloton.
Ouais, je pense que là, il a un programme World Tour super relevé sur Paris-Nice. J'ai hâte de le voir aussi. J'ai envie de le voir s'entraîner parmi les grands. Et peut-être que sur Milan-San Remo, il va peut-être travailler pour Laporte. Peut-être qu'on pourrait voir une victoire française sur un monument pour une fois. Et sur le Giro, il va faire une razzia avec en poisson pilote Wout. Ça va être exceptionnel. Après, j'ai pas envie de prendre un pas en avant, mais on a peut-être un autre élève qui va essayer de gagner sur le Giro, mais non, ça va être super intéressant comme saison pour lui.
Oui, ben voilà, tout a été dit, et je l'ai un petit peu dit tout à l'heure. Pour moi, c'est voilà, franchir encore une étape et puis se confronter plus au meilleur et aller remporter des victoires sur les grands tours.
Très bien, eh bien, professeur de français, c'est à vous. Quelqu'un qui a brillé, il me semble, en France l'an passé.
Oh oui, quelqu'un qui a fait une razzia l'année dernière, hein. Jasper Philipsen, effectivement, qui a brillé à la fois en France, mais pas qu'en France, partout dans le monde. Lui, il parle toutes les langues parce que il a vraiment gagné partout, même en Turquie jusqu'à la fin de l'année. Et c'est tout simplement avec 18 ou 19 victoires, 19, je crois, si je dis pas de bêtises. Il doit être soit 18 soit 19, mais le meilleur scoreur de tous les cyclistes, même devant Pogacar, devant Vingegaard ou Roglic, c'est lui qui a le plus gagné dans l'année 2023. Jasper Philipsen, il s'est affirmé tout simplement comme le meilleur sprinter du monde. 4 victoires sur le Tour de France, le maillot vert. Il en a laissé une à Jordi Meus sur les Champs-Élysées et puis une à Jasper Philipsen dans la finale en faux plat montant près de Limoges. Mais sinon, le mec était intraitable sur les sprints, parfaitement emmené par Mathieu Van Der Poel, reconverti en poisson pilote. Mais ça avait déjà commencé en début d'année. Et alors là, lui, pour le coup, c'est que sur des grosses courses, hein, puisque au début d'année, il en claque 2 sur Tirreno Adriatico. Il remporte la classique de Panne sur Milan-San Remo. Il est dans le coup. Il termine dans le groupe juste derrière les Cador. Enfin voilà, il gagne sur le Tour de Belgique. Il gagne plein de courses. En fin d'année, il est encore là. Pardon. Donc non, très très fort. Très très fort Jasper Philipsen, et puis il a montré également en 2023, et c'est pour ça que je vais lui adresser les félicitations, même s'il avait fait qu'être le meilleur sprinter, je lui aurais adressé, mais là c'est des doubles félicitations, j'ai envie de dire, puisqu'il s'est montré également peut-être comme un Flandrien en devenir. On l'a beaucoup vu sur les courses flandriennes animer les courses. Et puis en point d'orgue, bah son Paris-Roubaix, où Jasper Philipsen, impressionnant sur Paris-Roubaix. Et on se souvient, il était là dans le groupe qui s'est détaché après la trouée d'Arambert. Et puis bah voilà, pendant que tous les autres se faisaient laminer par les attaques de son équipier Van Der Poel, lui, il pouvait à peu près faire de la patinette. Bon, c'est vrai qu'il a créé un petit attentat sur John Degenkolb à un moment, mais en tout cas, sur le niveau physique, ça enlève rien à sa course. Il finit deuxième en se permettant le luxe même de finir derrière Van Der Poel et de battre Wout Van Aert. On sentait que sur le plat, voilà, le mec avait une puissance. Et puis en fin de course, il avait encore de la réserve. Donc, est-ce que Jasper Philipsen, finalement, ne serait pas un profil un peu à la Tom Bonnen, c'est-à-dire un excellent sprinter, mais également excellent Flandrien? Seul l'avenir le dira, mais en tout cas, pour avoir été un des meilleurs Flandriens et tout simplement le meilleur sprinter de l'année, évidemment, Jasper Philipsen, félicitations. Je pense qu'il pouvait pas faire mieux pour cette année 2023, donc bravo à Jasper.
Moi, je pense que il a été tout simplement incroyable sur toute la saison. Enfin, il fait un Tour de France. Enfin, il y en a tous les ans. Il y a un sprinter qui, enfin, il avait déjà explosé avant, mais il y a toujours un sprinter qui surnage et ça a été lui cette année. Il gagne le maillot vert. Il est incroyable. Il surpasse tout le monde. Il fait quelques attentats. Après, c'est aussi la marque des grands sprinters de gagner et d'avoir de l'autorité. Et sur son Paris-Roubaix et sur les classiques, enfin, Titien l'a dit, mais il est en devenir un excellent coureur. Et peut-être que Paris-Roubaix, je pense que notre petit chouchou Van Der Poel va être là, mais peut-être qu'un jour sur Paris-Roubaix, il peut le gagner. Enfin, il a parfaitement les capacités de le gagner. Et je pense que il est, en fait, il peut gagner partout. Enfin, il peut gagner sur les grands tours, sur les classiques. Et j'ai les félicitations. On peut donner que ça. Enfin, il y a pas de débat pour moi. Ce sera les très 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 grandes félicitations pour lui.
Effectivement, hein, pas grand chose à ajouter de plus. Les félicitations, une grosse domination sur le Tour de France, qui est la course de référence, le maillot vert remporté, et puis une présence. Enfin voilà, ce sera intéressant d'avoir le ratio des sprints auxquels il a participé et ceux qu'il a remporté. Mais franchement, c'est hyper impressionnant. Voilà, et puis bon, effectivement, en tant que prof de panache, ce petit Paris-Roubaix, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Donc oui, clairement, félicitations Jasper Philipsen pour cette saison 2023 absolument remarquable.
Écoutez, tout pareil que vous, hein, et notamment sur le fait que pendant longtemps, j'ai pensé que c'était un peu un couteau suisse et je le trouvais pas forcément capable d'aller s'imposer, notamment face aux gros sprinteurs de plat, on va dire, hein, ces sprinteurs type Groenewegen, où on parlait de Lifecoy tout à l'heure, qui sont vraiment dédiés à tout exploser, mais qui passent pas forcément bien les bosses. Moi, je trouvais que Philipsen, il avait plutôt un profil où il était capable de faire plusieurs trucs, mais des fois, je trouvais qu'il lui manquait un peu de vitesse. Cette année, il a prouvé que, bah voilà, hein, il peut faire deuxième de Paris-Roubaix et éclater tout le monde au sprint. Ce sera les félicitations, mais j'aimerais également lui dire attention au comportement, Jasper. Voilà, Jasper, plusieurs fois, on t'a vu physiquement des fois être pas forcément au top avec les autres coureurs autour de toi. On t'a vu jouer un petit peu le parrain aussi sur le Tour de France, là, quand t'as envie d'aller dire aux autres, toi t'attaques pas, toi tu fais pas ci, toi tu fais pas ça. Jasper, je sais bien que voilà, dans ton équipe, hein, t'as pas forcément des gens qui te montrent le bon exemple, hein, tes aînés normalement, qui peuvent cracher sur des spectateurs ou mettre des droites à des enfants dans des hôtels, mais malgré tout, Jasper, je vais te demander.
Directement attaqué. Oh là là.
Non, je dis juste que forcément, quand on n'a pas toujours les meilleurs modèles dans la vie, on prend pas toujours le meilleur chemin, c'est un fait. Mais non, par contre, en vrai, moi,
autoritaire.
Il y a des attitudes qu'il a eues que j'ai pas aimées, voilà, et notamment quand il se permet, je sais plus sur quel coureur là, il se permet d'aller parler là dans une étape en mode t'attaques pas maintenant et tout, enfin genre voilà, c'est des comportements.
Pascal Enkhorn, je
voilà.
crois,
voilà, oui, c'est ça, mais je suis totalement d'accord avec toi, et ça c'est, ah oui, c'est abusé, c'est des comportements que j'aime pas du tout, et va pas prendre le melon. Et franchement, hein, bien sûr, je mets une petite pique à Van Der Poel pour vous embêter vous, parce que voilà machin, c'est rigolo, mais juste vraiment, c'est ce que je pense. Et des équipes qui commencent collectivement à pas forcément avoir des bonnes images parce que bah il y a plusieurs coureurs qui se permettent des choses un peu déplacées, moi je trouve pas ça ouf. Et par exemple, tu vois, si je devais donner un avis, tout le monde, par exemple, a des fois tendance à taper sur telle ou telle équipe parce qu'ils gagnent la course, parce qu'ils ont pas l'air cool, parce que machin, parce que le manager de Visma, il va dire gna gna gna, faut pas boire une bière, et en effet ça fait un peu tête de con. N'empêche qu'il y a d'autres équipes qui aussi en course sont pas des caractères de ouf, et Philipsen, je trouve que là il a fait 2-3 trucs cette année sur lesquels moi je suis pas ok. Donc au niveau des performances sportives, il y a rien à dire, il a marché sur la concurrence, il a été très fort et très polyvalent. Par contre, au niveau du comportement sur le vélo, c'est-à-dire même dans les sprints où des fois ils gardent pas sa ligne, machin, tout ça, et bien sûr, c'est, voilà, les sprinteurs, on sait que c'est pas tous des enfants de cœur et qu'il faut savoir se faire une place, etc., etc. Mais il a aussi montré que ce qu'il faisait dans les sprints, il était aussi capable de le faire à d'autres moments, c'est-à-dire quand il veut aller parler à quelqu'un ou lui foutre un coup de pression, et du coup, voilà, ça va dans le complément de moi, c'est pas forcément des attitudes que j'ai envie de voir dans un peloton.
Ouais, bah écoute, je suis totalement d'accord avec toi. Si tu veux, j'enchaîne sur du coup ce qu'on attend de ce que j'attends de lui en 2024. Et bah écoute, bah j'ai 3 points. Le premier, bah c'est pour rebondir sur ce que tu as dit, parce que c'est pas parce que je présente ce coureur et je dis que je lui donne les félicitations que c'est mon coureur préféré dans le peloton, loin de là. Effectivement, je suis totalement d'accord avec toi. Je trouve qu'il y a quand même des attitudes. Voilà, il y en a qui prennent un peu la grosse tête ou qui font un peu les caïds. Et je pense que Philipsen, j'attends vraiment qu'il se calme de ce côté-là, parce que moi, ça ne m'a pas du tout plu, effectivement. Surtout ce que j'ai vu sur le Tour de France, où là, pour le coup, il ne pourra pas dire que c'était involontaire ou quoi que ce soit, quoi, quand tu vas chercher des coureurs comme ça et que tu fais le parrain de la mafia. On a vu ces attitudes par le passé de coureurs qui n'étaient franchement pas des exemples, j'ai envie de dire. Donc voilà, il faut arrêter ces comportements-là et puis qu'ils redescendent un peu sur terre. Voilà, cela étant dit, il y a 2 autres points pour moi. Le deuxième, qui va être le plus important pour moi, ça va être de confirmer en 2024, parce que c'est super d'avoir survolé sa discipline une année, d'avoir une année où on est le meilleur, où tout marche bien, etc. Mais on le sait, c'est toujours plus dur de confirmer l'année d'après. Et rien que s'il arrive à refaire la même saison que cette année, bah, ce serait incroyable. Et donc voilà, pour moi, ce que j'espère pour Jasper Philipsen, c'est de pouvoir confirmer, de montrer qu'il a toujours cette pointe de vitesse, que ça se passe toujours bien dans les sprints, qu'il sait parfaitement se placer, qu'il est parfaitement placé par son équipe, et puis surtout bah, qu'il aille chercher une ribambelle de victoire au World Tour. Hein. Je pense que s'il continue à aller chercher un maillot vert et 3-4 étapes sur le Tour de France, plus des courses, hein, des étapes un peu partout au sprint sur les courses sur les courses par étapes d'une semaine, voilà, il aura totalement réussi sur sa lancée finalement. Et puis le troisième chose pour moi, c'est les courses d'un jour. Et il y a 2 courses d'un jour que j'ai dans le viseur de Jasper Philipsen. La première, c'est Paris-Roubaix. Je pense que il y a des chances que ce soit le grand leader de l'équipe alpécine de Koenig sur le prochain Paris-Roubaix. Je suis pas sûr que Van Der Poel il retourne en tant que leader absolu. Je pense que voilà, Jasper Philipsen, il a montré que sur une course comme ça, en plus, il a l'avantage d'avoir cette pointe de vitesse et de pas être celui qui doit forcément se débarrasser de tout le monde. Donc voilà, s'il est aussi fort que cette année, il sera très très difficile à battre. Donc moi, je l'attends vraiment tout simplement remporté par Roubaix. Et puis la deuxième chose, alors j'ai moins de certitude que sur Roubaix, mais je l'attends également sur la course des JO, parce que certes, c'est une course difficile avec des montées dans Paris ça va grimper, etc. Mais c'est quand même un profil qui peut convenir à Jasper Philipsen. Alors, ils seront que 4 Belges à être sélectionnés, hein, donc déjà, il faudra faire partie des Belges sélectionnés. Mais Jasper Philipsen peut tout à fait, sur son niveau de base, aller rêver d'une médaille olympique. Donc voilà, je l'attends en tout cas sur briller sur les courses d'un jour et plus que des semi-classiques qui sont pour moi largement dans ses cordes. Ouais, voilà, je l'attends vraiment sur soit Roubaix, soit sur les JO pour aller chercher un podium, voire une grande victoire. Donc voilà, il faudra faire une saison d'exception dans tous les cas pour Jasper pour faire aussi bien qu'en 2023.
C'est sûr qu'il va devoir quand même bosser sur son comportement, parce que sinon, s'il continue à faire ce qu'il a fait sur le Tour de France, je pense que il pourrait se voir qu'on lui enlève une victoire, parce que s'il commence à la jouer physiquement comme ça, un jour on va lui taper sur les doigts, et à raison de lui taper sur les doigts, parce que s'il est dangereux et qu'il met les autres coureurs en danger pour gagner, je pense qu'on devrait lui taper sur les doigts. Et voilà, donc je pense que après Titien a dit ce qu'il fallait dire, mais oui, le comportement est quand même. Enfin, c'est tout simplement, ça fait pas plaisir à voir. On n'a pas envie de voir des coureurs tomber. On n'a pas envie de voir des coureurs se casser la gueule parce que on a un sprinter qui est un peu autoritaire. Enfin, même il n'est pas qu'un peu autoritaire. Et ouais, il va devoir se calmer quand même. Il va devoir se calmer sur le Tour de France et sur les autres courses, parce que sinon, va falloir faire quelque chose au niveau des courses, parce qu'on peut pas autoriser des comportements dangereux. Ça peut amener à des blessures et même à des fins de carrière pour si quelqu'un tombe vraiment très mal. Et on n'a aucune envie de voir ça sur une course cycliste.
Oui, bah, j'ai pas plus de choses à dire. Je pense que vous avez été très complet, cher collègue.
Juste pour clôturer, moi je pense que même si l'année prochaine il fait pas aussi bien en termes de victoire et tout, il pourrait quand même avoir les félicitations. Des fois il y a des types, on se dit faut au moins faire ça l'année suivante. Là son année elle est tellement ouf que même si il remporte moins d'étapes mais qu'il domine un grand tour, qu'il reste placé sur les monuments, alors même s'il gagne moins sur grand tour et qu'il gagne un monument, enfin voilà, il fait une saison tellement exceptionnelle. En tant que sprinter, comme tu le disais, Tiens, je pense que ne serait-ce que la confirmation déjà de cette saison-là, ce sera ouf, parce que j'ai l'impression qu'aussi chez les sprinters, encore plus que chez les coureurs de grand tour, la régularité dans les saisons, c'est pas forcément évident, et que des fois il y a un peu de relâchement aussi, qu'il faut aussi de la chance hein, pour remporter des sprints, peut-être encore plus que pour remporter des grands tours. Donc voilà, ne serait-ce qu'une confirmation et gagner même un tout petit peu moins, mais continuer à gagner l'année prochaine, fera de lui un sprinter avec les félicitations, surtout au niveau où il gagne, quoi. Voilà. Je pense qu'on peut passer à notre dernier coureur.
Alors, on va parler de notre nono national. On va parler d'un trois fois champion de France, quelqu'un qui a un palmarès exceptionnel. C'est quand même, mais qui a eu une saison, on va dire, contrastée. On a eu un premier semestre qui a été gâché par une situation à la FDJ qui l'a complètement miné. Et une sorte d'opération de secours pour se tirer du bateau avec Arkea qui vient le chercher dès août, même avant que les transferts commencent. Et donc il fait un début de saison mais terrible, Arnaud démarre. Et après, il arrive à gagner sur Paris-Bourges et sur le Tour de Vendée. Il fait aussi, enfin, il gagne en Belgique, je crois, il gagne Bruxelles, la classique de Bruxelles. Mais il a eu des problèmes avec Madio, il a pas réussi, il a pas du tout, il est pas du tout parti en bon terme. Et Arkea l'appelle pour les sauver, pour les maintenir en World Tour, parce que c'est lui qui va, enfin, Emmanuel Hébert espère qu'il va leur ramener des points, parce que c'est quand même quelqu'un c'est un élève qui a toujours été excellent, un des premiers de la classe chez les sprinteurs. Il a quand même gagné sur le Giro, il a gagné sur le Tour de France. Mais l'année dernière, ça a été très très. J'espère que c'est. J'ai pas envie de le voir terminer sa carrière comme ça, comme il l'a fait l'année dernière. Enfin, il va dans une équipe qui est moins, qui est, enfin, la FDJ n'était pas vraiment tournée autour des sprinteurs, parce qu'ils étaient, donc c'est pour ça qu'ils partent, parce que ils veulent faire une équipe de grand tour. Mais Arkea, à voir qui autour de lui pour le faire gagner sur le Tour de France cette année. Parce que s'il fait des sprints tout seul, je suis pas sûr qu'il va réussir à gagner à nouveau. Donc pour moi, c'est plutôt. On va pas. Enfin, faut faire attention pour Démare. C'est faire très très attention. Pour moi, c'est pas les encouragements, c'est plutôt avertissement. Voilà.
Ouais, bah pour revenir sur la saison 2023 d'Arnaud Démare, c'est vrai que comme tu l'as très bien expliqué, voilà, c'est à oublier hein, clairement hein, avec les soucis dans son ancienne équipe, la Groupama FDJ. C'est très rare de voir ça en cyclisme, un changement de team en cours de saison. On la sent, il a dû être quand même bien 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 déstabilisé. Et on sait que un sprinter, il faut qu'il ait la confiance aussi pour voir enchaîner les victoires, et ces résultats sont tout simplement catastrophiques par rapport à ce à quoi il nous avait habitués depuis le début de sa carrière. Et clairement, il ne faut pas oublier que c'est un garçon qui a 95 succès professionnels. C'est assez monstrueux, et il en a eu aussi en 2023. Mais on avait l'habitude de le voir plus prolifique, et puis surtout sur de plus grosses courses que ça, hein. 8 étapes sur le Giro, 2 étapes sur le Tour, un Milan San Remo. Bon, bref, on n'a pas assez de temps pour refaire toutes ces victoires. Mais voilà, clairement, sur 2023, saison à oublier et il faut vraiment qu'il reparte de l'avant dès maintenant. Alors, moi, je ne vais pas lui donner les avertissements parce que je pense que les torts sont peut-être aussi partagés et que sa position n'a pas été simple et que dans ce cadre-là, s'en sortir, je pense que c'était mission impossible. Il tente ce passage chez Arkea. Alors, on parlera des perspectives 2024 tout à l'heure. Mais voilà, clairement, il ne faudra pas qu'il traîne. Pas grand-chose à dire de plus sur l'année 2023 d'Arnaud Démare. Voilà, pour moi, à oublier en termes de résultats, en tout cas.
Ouais, je te rejoins totalement. Une année à oublier, hein. C'est un peu triste parce que il prend de l'âge, notre Arnaud Desmarins, il a 32 ans actuellement. 91, je crois, ouais, c'est ça. Il fait une saison qui est pas oufissime. Alors on l'avait dit dès le début de l'année dernière, si vous aviez écouté notre conseil de classe sur les coureurs de grand tour, on avait parlé de David Gaudu et en fait c'est arrivé assez tôt, mine de rien, dans cette saison, cet épisode avec David Gaudu où on avait du coup appris officiellement de la bouche de David Gaudu qu'il pouvait pas se blairer, que c'était même un peu plus que pas se blairer. Et voilà, on sait quel était l'objectif de la Groupama et quelle carte ils avaient mis autour de David Gaudu. Et bah, je pense qu'ils ont simplement misé voilà, hein, sur David Gaudu pour l'avenir. Peut-être du fait de l'âge d'Arnaud Démare aussi. Et en fait, ça a pourri toute sa saison parce que il a pas de mauvais résultats en soi, mais juste bah il gagne pas. Alors il gagne sur les boucles de la Mayenne. Après, c'est très compliqué. Puis en fin d'année, en effet, quand il va chez Arkea, pardon. Bah, il arrive à gagner un petit peu plus avec, comme tu le disais, le Tour de Vendée et Paris-Bourges. Après, voilà, il prend de l'âge. Je pense que, mine de rien, il faudra voir comment ils vont sur le Tour de France. Mais je sais que, par exemple, Florian Sénéchal, il a déjà été lanceur quand il était à la Quick-Step pour les sprinteurs qu'il pouvait avoir. Donc voilà, il aura, je pense, quand même du monde pour l'accompagner et lui faire un train. Je pense que Clément Venturini, qui va pas mal au sprint aussi, après, je sais pas s'il aime trop frotter, mais ça pourrait être utile aussi sur les arrivées. Donc il faudra voir. Une année à oublier, clairement. Pareil, pour moi, pas d'avertissement, parce que je pense pas que ce soit que de sa faute, et notamment vu comme est sorti finalement l'affaire avec Gaudu l'année dernière, j'ai l'impression que voilà, c'est plutôt Desmarques qui a été gentiment poussé vers la sortie, et que voilà, il a un peu réagi comme il pouvait par rapport à ça. Au contraire, même, je l'ai trouvé très drôle quand, pendant le Tour de France, il postait des petites photos tous les jours, là, humoristiques, on est avec le tour, ah, qu'est-ce qui se passe? Moi, je fais du tracteur, enfin voilà, tout ça. Mais voilà, et par contre, j'attends mieux de l'année 2024 et comme dit les années passent, j'espère qu'il va pas nous faire une fin de carrière à la Sam Bennett. J'aimerais plutôt le voir renaître de ses cendres à la Mark Cavendish pour nous faire encore deux trois belles années là jusqu'en 2025 chez Arkea. Donc voilà, on attend ça de lui. Il est capable et je pense que quand on regarde l'effectif, il fait partie des têtes de gondole d'Arkea pour les deux années à venir.
Ouais, bah moi je vous suis en fait. Bah déjà ce choix d'aller chez Arkea, alors il n'y a peut-être pas eu beaucoup de choix, mais je trouve que voilà, ça enterre beaucoup de chance quand même, parce que vu les. Enfin, lui, sa discipline, c'est le sprint, et vu sur les plus grosses épreuves maintenant les armadas qu'il y a et les sprinters qu'il y a, je me demande bien comment Arnaud Démare, il va pouvoir aller regagner des grandes courses. Alors oui, c'est sûr que si c'est pour aller chercher 6-7 succès dans l'année avec des Paris-Bourges, des Tours de Vendée ou des Tours de Poitou-Charentes, bah dans ce cas, on pourra considérer que sa saison elle est réussie. Mais voilà, l'année dernière, c'est ça, je vois ça comme succès. Il y a 3-4 succès et c'est des épreuves de ce niveau-là. Donc certes, il y a eu tout ce qui s'est passé avec la FDJ, avec Gaudu, tout ça. Toujours est-il que voilà, Arnaud Démare, j'ai l'impression que ça fait depuis son Giro là, qu'il avait bien réussi il y a un peu plus de 2 ans, il y a 2 ans je crois, qu'on l'a pas revu au top niveau face au meilleur du monde. Donc moi, je mets pas les encouragements parce que la saison elle est pas assez réussie et je trouve qu'il revient pas assez sur les grosses épreuves. À contrario, c'est dur de lui mettre un avertissement vu ce qui s'est passé. Donc moi, elle m'a laissé assez neutre finalement en termes de résultats la saison de Démare, et on va en parler après, mais j'ai un petit peu peur pour la suite. Donc je vous rejoins un peu sur tout ce que vous avez dit.
Qu'attendre du coup en 2024, professeur d'efficacité, pour Arnaud Démare?
Si j'aime pas faire le comptable, mais je suis professeur d'efficacité, aller chercher des points. Aller chercher des points pour... J'aimerais bien le voir gagner, hein, mais je pense que Arkea le paye pour aller chercher des points, pour se maintenir dans au World Tour. C'est moche, hein, mais si ils doivent le payer extrêmement cher, Et il faut qu'il gagne sur des grands tours. Il faut qu'il fasse des bonnes places. Et faut qu'il fasse un retour. Enfin, il faut qu'il se relève. Parce que c'est vrai, moi, je l'adore ce coureur et je trouve ça super moche comment ça s'est terminé avec la FDJ. Mais il faut qu'il se mette, enfin, je pense qu'il doit se mettre la pression. Mais il a quand même, il a une équipe sur le dos là qui compte vraiment sur lui et il faut qu'il score, faut qu'il gagne, voilà.
Ouais, il faut qu'il gagne, mais je pense quand même que s'il gagne uniquement des courses 1 point en France. Ouais, ok, ça fait des points UCI pour Arkea, mais clairement, moi, c'est pas du tout là où je l'attends, parce que je pense que ces courses, il peut les gagner. Non, là, pour vraiment qu'il montre qu'il est toujours là, il faut qu'il arrive à battre les meilleurs, qu'il arrive à gagner au niveau World Tour comme il l'a su faire. Paris-Nice, c'est une course où il a brillé, donc voilà, s'il va chercher une étape de Paris-Nice, bah là, ok, il y a quelques classiques, semi-classiques belges qui sont au programme, pourquoi pas, même si on sait qu'il les a un petit peu délaissés cette année, ces dernières années, on sait pas, et puis après, alors je pense que ça va être très compliqué d'y gagner sur le Tour de France, mais clairement, il faut, pour pas justement avoir une fin de carrière un peu en nœud de boudin, et puis le voir disparaître progressivement des radars et puis faire 15e des sprints, il faut claquer une grosse course en 2024, sinon je pense que ça va être très très mal engagé. Et voilà, et c'est sûr que chez Arkea, il n'y a pas le meilleur train de sprinteurs, même s'il y a des gars comme Daniel Maclay, Luca Mozzato, Miles Scottson, Venturini, Sénéchal, qui pourraient l'épauler, l'entourer, mais on n'est pas non plus sur les... Voilà, sur les meilleurs coureurs du monde qui ont l'habitude de faire ça. Donc, à voir. Ça risque d'être compliqué, mais clairement, il faut qu'il vise des grosses, grosses courses.
Ouais, rien de plus à dire. Finalement, au vu de son âge et tout, moi, ne serait-ce que déjà qu'il continue à gagner, je trouverais ça cool. Si on peut le voir aux avant-postes dans les grandes courses, ce serait super. Aller chercher une petite étape sur Paris-Nice, une petite étape sur le Tour de France. Ce serait formidable et je lui mettrai les félicitations l'année prochaine. Donc voilà. Mais en tout cas, j'aimerais au moins continuer à le voir aux avant-postes.
Ouais, bah je sais pas, j'ai un peu peur pour tout vous dire pour Arnaud Démare. Je sais pas ce que ça m'inspire, voilà, ce passage chez Arkea. Alors certes, voilà, il est dans une nouvelle équipe qui va. Ben voilà, il est content, je pense qu'il a besoin de partir de la FDJ après ce qui va se passer, donc il arrive avec une fraîcheur mentale, mais Démare, on le sait, pour gagner face aux meilleurs, parce que mine de rien, c'est ce qu'on attend quand même, il faut un train pour Arnaud Démare, qui n'est pas un sprinter qui se débrouille tout seul. Comment face au mastodonte d'un Philipsen emmené par Van Der Poel, à l'équipe DSM maintenant, qui a Jakobsen, qui a pas mal de gros sprinters, enfin, à toutes ces Olaf Coy, tout ça, emmené par Van Aert, comment il va pouvoir se débrouiller Arnaud Démare, Je ne sais pas, j'ai un peu peur pour tout vous dire, donc oui, en fait j'ai aucun doute sur le fait que sur des épreuves de Coupe de France ou des plus petites épreuves françaises comme ça, il va scorer, mais bon, c'est Arnaud Démare, quoi, c'est le mec qui nous a porté dans le sprint pendant tout le 21e siècle, en tout cas pendant les 10-12 dernières années, donc ça va être très dur de juste se dire que Arnaud Démare a une saison réussie avec 5-6 victoires, ce qui ferait de lui quand même un très bon scoreur, mais sur des courses de second rideau, donc j'espère que voilà, il aura sa chance, qu'il va pouvoir la saisir son occasion, et que surtout il va arriver avec des équipiers qui vont être pleinement à son service et qui vont être efficaces effectivement, mais j'ai un peu peur parce que la classe de français ne se passe pas très bien pour Arnaud, donc écoute, faut y croire, mais voilà, je suis pas hyper optimiste.
Très bien, messieurs, eh bien, il me semble que nous avons terminé. Nos quatre cas sont passés pour ce conseil de classe. On leur souhaite en tout cas le meilleur pour la saison à venir. Merci. Tout le monde va pouvoir regagner un petit peu son foyer là après cette dure journée à l'institut et ce petit bonus conseil de classe.
Eh oui, merci. C'est la période, hein, donc du coup,
On s'adapte.
Tout à fait. Et bien encore, merci bien. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, si vous nous découvrez, de vous abonner. Également, vous pouvez partager le contenu que l'on produit aux personnes autour de vous. Et j'ai oublié de faire ce petit point réclame en début d'émission. C'est dommage, mais si vous êtes encore là, c'est parfait. N'hésitez pas à aller nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook, car Radio Fringale s'est doté d'un pôle rédac écrite avec... Simon et Matt, qui vous font vivre l'actualité, hein, tout ce qu'on ne traite pas forcément en podcast, et ils le font par écrit. En ce moment, ça débite, c'est à base de 3 articles, voire 4 articles par semaine, des articles de qualité super bien écrits. C'est un bon complément à ce qu'on fait déjà à l'audio, donc surtout n'hésitez pas, voilà, soit Facebook, on va pas se mentir, si vous avez la quarantaine ou plus, soit Instagram, si vous êtes un peu plus jeune, on fait pas de discrimination, hein, toutes les plateformes sont couvertes par Radio Fringale, donc voilà, tout le monde est content. Mais voilà, n'hésitez pas à aller lire tout ça, parce que c'est un super taf et ça permet de les mettre en lumière aussi, donc voilà, merci à toutes et tous de nous avoir suivis, merci messieurs.
C'était génial.
N'oubliez pas de vous alimenter comme d'habitude, prenez soin de vous, à la prochaine, c'était Radio Fringale, ciao.
Salut tout le monde,
ciao. Les gars, bisous.